Bonjour tout le monde et bienvenue au Compte de Trois. Aujourd'hui, c'est un épisode hors série, alors qu'on va se raconter nos meilleurs moments de WrestleMania. On sait que le pay-per-view s'en vient la fin de semaine prochaine. Je ne suis pas pour vous, mais je commence à avoir très hâte.
Oui,
Oui.
écoute, c'est pas juste une soirée en plus cette année, c'est sur 2 jours. On peut même dire que c'est une grosse semaine de lutte qui s'en vient. Super excité. Bien hâte de voir ce que la WWE nous réserve.
Et cette semaine, on vous a également promis un gros invité. Je vous le présente. Il est co-animateur du podcast Trois Bières depuis 2011, podcast qui a été nominé 2 fois aux Oviers. Il est également animateur des soirées d'humour au bar Le Zaz à Montréal. Je parle bien sûr de Pierre-Luc Racine. Pierre-Luc, bienvenue à l'émission.
Yeah, merci de l'invitation, gang. Merci beaucoup, Krim. Hey, le Zaz, ça fait comment longtemps? À mon Dieu, pré-pandémie.
Ouais.
Puis le bar est fermé depuis. Pam, pam, pam. Fait que c'est ça. Quelle époque dans laquelle on vit pareil.
Ouais, j'avoue que la pandémie, ça a dû changer pas mal de plans, ça.
Ouais.
Merci beaucoup d'être venu à l'émission. C'est très apprécié.
Fait plaisir, fait plaisir.
En commençant, ta passion pour la lutte, ça commence quand?
C'est drôle, moi je suis tombé dans la lutte par comme pur hasard, si on veut, là, dans le sens que tout a commencé pour moi lorsque j'ai été au Vidéo Magie de la Prairie, un club vidéo à l'époque, et j'ai comme mis la main, je ne savais pas trop quoi louer comme jeu, fait que j'ai loué WWF Raw, Super Nintendo. Puis j'arrive chez moi, puis je commence à jouer au jeu, je le trouve un peu clunky, c'est pas le meilleur des jeux, cependant, ce qui est le fun, c'est que les personnages. Ils ont chacun leur propre musique. Ils ont chacun leur propre personnalité. Ils ont leur propre finisher qui est différent aussi. Puis je trouve ça vraiment cool. Je suis comme crème. Il y a quoi d'éclater là-dedans qui est vraiment intéressant, qui est le fun, qui pique ma curiosité. Puis il paraît que c'est du vrai monde que je peux voir à TV. Fait que j'ai commencé à écouter la lutte à TSN puis à RDS à l'époque, juste pour voir c'est quoi. Puis là, j'ai été accroché parce que je suis comme en 94-95. Fait que c'est comme la fin du Generation. Ça commence déjà à devenir un peu attitude-esque par bout. Puis là, je suis jeune, j'ai comme 12 ans, puis je trouve ça vraiment, vraiment nice. Fait que. Non, j'avais 10, ça veut dire. Fait que j'avais 10, puis je trouve ça vraiment, vraiment cool. Fac, je suis tombé en lutte de même. C'est comme ça que je suis tombé en lutte. Vraiment comme à cause du jeu vidéo de Super Nintendo.
Ah, toi, tu es un grand fan de jeux vidéo, là. Le meilleur jeu vidéo du jeu, selon toi, c'est laquelle?
C'est WWF No Mercy, 64.
No
Je trouve
Mercy.
que c'est le jeu qui a le plus de personnalisation possible. Je trouve qu'il y a le plus de modes possible aussi, puis qui est aussi simple à contrôler. Des fois, ça arrive qu'il y a des jeux de combat qui sont super le fun, sont complexes, mais je trouve que No Mercy, ce qui est le fun, c'est que ton ami qui jouait quasiment jamais avec vous autres. Il est capable de prendre la manette puis faire les guest referee ou même genre participer simplement. Puis c'est vraiment, vraiment important, je pense, dans un jeu de lutte, c'est avoir un jeu de party. Puis il faut que ça soit plus proche du jeu de party que du jeu de combat, bon jeu de lutte.
Les gars, c'est quoi vos jeux vidéo préférés de lutte, ever?
C'est clairement SmackDown versus Raw. Le dernier qu'ils ont sorti, si je ne me trompe pas, c'est 2010, 2012, 2010, 2010.
Ouais, dans ce coin-là.
Clairement. Clairement.
PlayStation,
Toi,
c'est ça ou c'est SmackDown?
Ouais, c'est Raw versus SmackDown, mais écoute, là, c'est 2K qui est fort, mais c'était pas 2K qui l'a fait celle-là.
Ouais, THQ, dans le temps, je pense.
Ouais, THQ.
Ouais. Lequel t'as dit, lequel?
Le dernier Raw versus SmackDown, là,
OK.
2010, je pense.
Pour ma part, je vais juste faire une petite recherche parce que je me souviens plus trop de quelle année.
Il y avait le dernier
Ça
qui ont
serait
sorti, c'est à Wii
2.
aussi.
Fait que je
Ça
pense.
oui, ça fait longtemps.
Le
Oui,
cover, c'est un split-up entre c'était Raw versus SmackDown, c'était un split-up de deux faces, je me souviens plus c'était qui. 2004.
dans les
Raw versus SmackDown 2004 sur PlayStation 2, c'était Vince McMahon avec un œil bleu, un œil rouge pour Raw SmackDown.
Écoute, pendant qu'il bug, je vais ouvrir une parenthèse.
C'était
Pierre-Luc, on a un nom très similaire. Hein? Toi, c'est Pierre-Luc, moi, c'est Pierre-Olivier. Puis les deux, notre passion de la lutte a commencé en même temps. Toi, tu parlais du jeu que tu as eu au club vidéo. Mais moi, c'est le jeu SmackDown versus Raw 2008 sur la Wii. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à triper sa lutte. Rey Mysterio puis Jeff Hardy. Je prenais tout le temps ces deux-là, j'ai trippé. Puis même en fait que toi, j'étais voir Jeff Hardy, il était sur Impact Wrestling avec Marc Blondin sur RDS. On a quasiment le même parcours de la lutte.
T'es avec Monsieur Fun.
Ok, oui.
Yes! Cool, ouais, c'est ça qui est le fun des fois. C'est juste comme. Puis c'est ça qui est le fun de la lutte, c'est que c'est plus grand que nature. Puis c'est ça qui est vraiment pour moi qui m'intéresse de ça, c'est surtout un marathon à l'essence même, zéro, level zéro, là. Je veux voir des choses plus grandes que nature, des personnages avec du face paint d'en face puis des choses irréalistes. C'est ça que je veux voir. Fait que, oui, définitivement, c'est ça. Il faut en profiter quand ça passe, ces choses-là.
Moi, pour finir, sans parenthèse, jeux vidéo, moi, je suis embarqué dans la lutte assez récemment. Fait que j'ai pas joué bien longtemps aux jeux vidéo tous, mais j'ai pogné WWE 2K14 deux ans à peu près, puis vraiment, j'ai...
Le 14, ça, t'as joué?
Ouais, le 14, avec
The Rock. Avec Break the Strike, c'est ça?
Break the Strike, les 30 ans.
Ouais,
les 30 ans de WrestleMania.
Ouais.
Puis vraiment, j'ai adoré celle-là. Puis alors, pour revenir à toi, je sais que tu étais actuaire avant de devenir humoriste.
C'est vrai,
c'est vrai. C'est un parcours disons, particulier. Comment est-ce que ça s'est passé, la transition d'actuaire à humoriste?
Bien, c'est drôle parce que c'est totalement des milieux tellement différents. Quand j'étais actuaire, j'ai fait mon bac en mathématiques, concentration actuariat. Puis j'ai fait aussi des examens post-universitaires en mathématiques. J'avais des cours dans lesquels il n'y avait pas un seul chiffre, juste des lettres grecques, avec énormément d'abstraction à l'intérieur de ça. Puis quand j'ai entré à l'école de l'humour, c'est de l'art. Puis de l'art, ça ne marche pas comme la science. Il n'y a pas de réponse tout le temps qui est universelle. Ça se peut que tu fasses une réponse que le prof trouve pas bonne, mais tout le monde dans la classe trouve ça drôle. Tu peux faire une réponse que juste toi trouves bonne. Puis ça, c'est très, très, très différent de lorsqu'il n'y a pas une bonne réponse dans tout ce que tu fais. Là, il faut juste que toi, tu trouves ta propre bonne réponse qui est bonne pour toi puis qui va connecter avec les autres.
Ça, j'ai entendu dire que c'était bien dur de rentrer là-dedans.
Lequel?
Actuariat.
En fait, non. La cote était assez basse, si je ne me trompe pas, parce que beaucoup de monde quitte parce que c'est difficile. Fait que ce qu'ils font, ouais, c'est qu'ils essayent de venir.
Ben, c'est pas un genre de processus de sélection par examen et tout, là. Je pense que j'avais un de mes profs qui avait étudié là-dedans qui expliquait ça un peu.
En fait, c'est pas loin de ça. C'est que tu peux, pareil, être actuaire dans l'exercice de la profession sans faire les examens post-universitaires dont je parlais. Eux, ils sont super difficiles. Ils disent que pour chaque heure que l'examen dure, il faut que tu étudies 100 heures. Puis okay, le premier examen, il est 4 heures. Le deuxième, il est 2 heures et demie. Parce que dans mon temps, c'était ça. Troisième, il est 3 heures. Quatrième, il est 3 heures aussi. Moi, j'ai fait ces 4-là, en fait. Fait que j'ai fait ces examens-là. Puis, tu sais, c'est tellement d'ouvrages qu'à ta job, ils te donnent des journées, ils payent des journées d'études chez vous parce que c'est trop difficile. Fait que tu peux pas faire juste ça le soir puis les week-ends, tellement que c'est de l'ouvrage. Puis ça, c'est vraiment difficile aussi parce que les examens sont pas notés comme, genre, les examens normaux. C'est pas comme 60% de passage. C'est, ils prennent, mettons, ils décident que 20% du monde vont couler, fait que peu importe, fait que ça vient un roi de la montagne sans arrêt. Fait que non seulement au premier, si tu fais, ça se peut que tu coules, même en ayant 110% parce que juste la classe est de meilleure que toi, puis après à l'examen 4, ben, t'es contre tout le monde qui ont réussi l'examen 1, 2 et 3, puis ça c'est extrêmement, extrêmement difficile parce que aussi, ces examens-là, ils sont vraiment, vraiment chiens dans le sens que c'est ta choix de réponse. Et si tu ne réponds pas à bonne réponse, ils t'enlèvent des points. Et aussi, dans la réponse, il y a des pièges. Fait que ça se peut que tu tombes sur une réponse comme « Ah, yes, enfin, j'ai trouvé bonne réponse. » Mais bam, dans un piège, puis eux, ils avaient prévu ça. Fait que c'est extrêmement difficile.
C'est ça, j'avais entendu dire. Mon prof, il avait étudié là-dedans. Puis justement, je pense qu'il s'était rendu jusqu'au bout, mais que, ou genre vers la fin, puis il avait lâché parce que c'était vraiment rendu.
Ouais, moi, j'ai arrêté après 4 parce que c'est vraiment l'enfer. Là. J'aime vraiment les maths. Je suis un gros nerd dans la vie. J'aime vraiment tout ce qui est... L'affaire nerd, ça me touche énormément. Là, c'est rendu appliqué à la finance et ça ne m'intéressait pas.
Toi, est-ce que tu avais participé à... Non, Humour Mania?
J'ai pas participé à Humour Mania. Je n'avais pas commencé encore à être dans l'humour à ce moment-là. Cependant, sur le Patreon de Trois-Bières, pour 2$ par mois, en fait, juste 2$, tu peux venir voir au Minifest 2019. J'ai fait un show qui s'appelait La Lutte, La Lutte, La Lutte, La Lutte. Dans le temps, c'est Lucha, Lucha, Lucha en français. Puis, c'est un show de stand-up sur la lutte à thématique lutte. Puis, c'était vraiment, vraiment cool. Pour venir closer le show, il y avait Mike Patterson. Sur le show, il y avait deux lutteurs, c'est-à-dire Urban Miles et Benjamin Toll. Il y avait aussi un humoriste heel, puis lui se fait huer tout le long parce qu'il fait des jeux de mots, c'est magnifique. On a des chops, on a des super kicks, on a des chants du la crowd, on a des. À un moment donné, il y a un you fucked up parce que quelqu'un accroche quelque chose. Il y a vraiment tout, il y a un moment damn. Ça vaut vraiment la peine, je trouve que c'est vraiment un show de fun. S'il n'y a pas de pandémie, il y aurait probablement une suite en 2020. Parce qu'il y a aussi une trame narrative qui se buildait à travers tout ça. J'aurais vraiment aimé ça ça vaut vraiment la peine. Venez sur les pétitions de Trois-Bières puis marquez la lutte dans le search. Donnez 2$ puis vous avez accès à vraiment un assez bon show. Là.
Oui, puis si tu me permets aussi une plug, sérieux, le podcast de Trois-Bières, c'est un podcast excellent. Ça parle de tous les sujets. Je vous conseille aussi d'aller l'écouter. Au complet, oui.
Puis aussi, dans le temps, genre, la crowd est tellement fun. J'avais créé une playlist de musique, genre, essentiellement avant, pour que quand t'arrives, ben, t'as des tunes de lutte qui jouent. Puis, je faisais juste la tune de Ric Flair ou de Charlotte, puis le monde font des woo, puis des choses. J'avais mis Glorious aussi, puis c'est le monde chantant. C'est de l'époque où tout le monde criait la tune de Bobby Roode.
Ouais.
Ça, c'était cool aussi.
C'est le fun quand le monde embarque là-dedans. Donc, on va commencer dans le sujet de l'épisode, c'est-à-dire WrestleMania. Toi, les gars, vos premiers WrestleMania, c'était quand?
Écoute, là, ça va avoir l'air super épais, ce que je vais dire. Très, très contradictoire aussi. J'écoutais Impact Wrestling avec Marc Blondin et Sylvain Grenier avec Jeff Hardy. Et à chaque WrestleMania, je l'écoutais pareil en espérant voir Jeff Hardy. Donc, écoute, le premier que j'ai écouté au complet, c'est peut-être le 27.
Ouais.
Parce que je suis pas vieux aussi, j'ai juste 20 ans là. Fait que ouais, le 27 fin, c'est mon premier jeu.
Pas le meilleur non plus que tu as choisi.
Ouais. Moi, honnêtement, je suis pas plus vieux que Pierre-Olivier, mais mon premier que j'ai écouté au complet, c'était WrestleMania 20. Selon moi, là, pour moi, c'est le meilleur WrestleMania.
Ben, il est un peu infamous aussi là, avec sa fin, Benoît, tout ça.
Ouais, ben, c'est justement pour ça que c'est mon préféré, honnêtement, là, avec Guerrero et Chris Benoit là, à la fin. Là.
Je pense que mon premier Mania, c'est le 15, je pense, mais je suis pas 100% sûr, peut-être le 16. Ça fait un sacré bout, je te dirais, tout ça. Puis des fois, j'ai revu les extraits du 14, même, puis je pense que j'étais là, mais finalement, je n'étais pas sur place. Mais ça devient très, très flou pour moi de me rappeler si je l'ai vu à l'époque. Puis aussi, j'écoute un podcast qui s'appelle Attitude Era Podcast, que j'adore, je trouve super, super bon. Puis des fois, quand je réécoute ça, je suis comme « Ah oui, je me souviens avoir vu ça ». Fait que je sais pas exactement à quel moment que j'ai commencé à écouter, genre, les Mania précisément. Je pense que j'ai comme commencé à écouter la lutte, mais sans voir les pay-per-views pendant très longtemps. Puis là, à un moment donné, j'ai décidé de louer les pay-per-views vraiment sur le tard. Je me souviens, le premier que j'ai écouté, c'est le King of the Ring 98, je crois, avec le Hell in a Cell avec Mankind et Undertaker. Puis je me souviens, avec mon ami, Mathieu à l'époque. Puis nous, c'est le premier pay-per-view ever qu'on regarde. Puis on voit ça. Puis on est comme, oh tabarouette, c'est ça, tous les pay-per-views. C'est ça que je manque depuis 2 ou 3 ans. J'écoute la lutte, mais sans voir les pay-per-views. Puis on capotait, là.
Moi, c'était comme ça, mon expérience de lutte. J'écoutais les shows hebdomadaires, mais j'écoutais pas les pay-per-views pendant peut-être un an et demi. Fait que mon premier WrestleMania, c'est quand même assez très récent. C'est WrestleMania 35. Je sais pas si vous m'en rappelez, c'était celui qui avait fini à 2h avec à 2h du matin avec le main event de Fiend. Qui était d'ailleurs un excellent match à écouter après, parce que à l'écouter live, t'as juste hâte que ça finisse. Fait que t'as vu, j'apprécie.
C'est pas le WrestleMania que tu dormais dans le divan chez PO, ça?
Non, c'est à SummerSlam, ça.
C'est SummerSlam, ça.
Mais c'est tellement. Je trouve que les derniers Mania sont tellement trop longs. Puis même, tu sais, mettons, moi, j'ai été à Mania 28 à Miami. Puis c'est vraiment comme le fun d'être sur place là-bas puis de voir Mania, c'est tellement, tellement cool. Mais une affaire qui est non négligeable, c'est que c'est drainant en tant que spectateur d'être là. Tu arrives en après-midi un peu là, pour le pre-show puis tout. Fait que c'est dans un stade de football, fait que le soleil te plombe dessus. Il fait vraiment, vraiment chaud. Puis en plus, tu es là pendant comme... Tu sais, moi, j'ai la chance, entre guillemets, que Mania 28, il est pas aussi long que les derniers. Il finit pas comme... pas des shows de 12 heures ou des choses de la même. Mais pareil, à la fin, j'étais extrêmement drainé. Là. Il y avait des moments qu'à la maison, tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils amènent Brothers Clay à danser avec le monde. Mais c'est juste que pour que nous, on puisse comme faire un instant puis revenir nos émotions. Fait que je peux pas croire des gens sur place qui endurent. Je veux dire endurer parce que c'est pas des cartes têtes récemment. En plus, ils sont pas super, super têtes. Fait que il y a des gros moments de comme voir l'époque où Roman Reigns était vraiment, vraiment moins bon. Puis voir Triple H lutter ensemble. Puis on dirait, my God, deux golems qui sont rouillés, qui essaient de se battre l'un dans l'autre. Puis c'est assez lent. Là. Fait que je peux pas croire. Il y avait des chants justement, qui le public exprimait leur désaccord puis leur mécontentement face à ça. Puis je trouve que les dernières années, la WWE a très mal traité ses fans pendant quasiment 10 ans de temps. Les 2 dernières années, je trouve qu'ils ont vraiment traité leurs fans. Puis ça fait que comme des gens comme moi, on l'écoute quasiment plus, le WWE.
Ben, tu sais, honnêtement, moi, avant, j'écoutais Raw SmackDown à tous les semaines. Maintenant, j'écoute juste les highlights sur Facebook. J'écoute les pay-per-views, là, si les cartes sont bonnes. Sinon...
Mais SmackDown a quand même tout le temps l'air d'avoir plus d'allure parce que Vince ne met pas les pieds dedans. Mais
ouais.
Mais Raw, c'est comme... C'est insupportable. Je trouve qu'il y a des bonnes idées à travers ça.
Avant, là... Tu sais, avant, j'écoutais dans le temps, justement, CM Punk, Cena, Nexus, etc. Là, ça, je suivais ça toutes les semaines. Mais maintenant, j'accroche un peu moins. Tu sais, me connecter, mettons, au network, puis voir pendant une demi-heure de temps du monde comme... je sais pas, Ricochet qui job dans le ring contre Retribution, s'il n'y a pas d'intérêt là.
Voir Aleister Black peut être utilisé, voir
c'est ça,
les
choses de même, Exactement.
Ouais, cette affaire-là, c'est très triste. Disons, moi aussi, je suis sur SmackDown, ça fait un petit bout. Je recommence un peu. J'avais eu l'intention de recommencer pour le podcast, justement. Cette intention, ça t'a fait 2 semaines. Je n'étais plus capable après.
Fait que, c'est difficile parce que tu n'as jamais vu une industrie. La lutte, c'est vraiment une industrie spéciale parce que c'est moitié fiction, mais moitié vrai aussi. Puis c'est aussi la seule chose à la TV qui mettons, je veux dire la fiction, qui est narrativement de la fiction. Là. Genre, ce que les lutteurs font, c'est vrai. Les risques de blessure sont vrais. Les prouesses que ces gens-là font sont vraies. Mais narrativement, c'est la fiction. Puis c'est la seule fiction qui ne prend pas de pause. Puis c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de faire de la bonne narrative parce que tu as 3 heures les lundis, 2 heures pour SmackDown, tu as NXT en horaire aussi à traîner, tu as Main Event, pas la même pour les Jobbers, mais dans le temps, il y avait ça, je ne sais plus s'il y a encore. À travers tout ça, vu qu'il n'y a pas de pause, il n'y a pas de season finale, à part Mania peut l'être un peu une finale de saison. Il essaie de faire que le Rumble, c'est un début de saison, mais ça ne l'est pas tout le temps. Fait à travers tout ça, c'est difficile de soutenir une bonne histoire, mais si en plus de ça, tu penses que depuis genre 13 ans, en fait, mettons depuis au moins 2012, qu'il y a des gens qui crient Cena sucks dans la crowd, ça fait au moins 10 ans que Vince, il est comme hey, les fans, mangez de la merde, je décide. Fait que ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas buildé vraiment un star power qui a le level Cena, quand Cena était populaire, là, ça c'est incroyable. Là. Puis tu sais, quand tu penses à Attitude Era, tu penses, selon moi, à la grande période de la lutte populaire pour moi, que moi j'ai vécu, parce que toutes les vedettes sont hot. Toutes les Taker, Kane, The Rock, Jericho, Stone Cold, il y en a probablement d'autres que j'oublie en ce moment, qui étaient comme vraiment comme oh my god, je peux pas croire. Mais comme ils ont enterré tout le monde par John Cena pendant très longtemps, puis ensuite par Roman Reigns, ben, ça fait que là, ils sont en train de vouloir développer des talents comme il est très bon, Drew McIntyre est très, très bon, là, mais ça sort un peu de nulle part. Fait que tu es comme en train de pousser tirer des fleurs le temps qu'ils poussent. Puis ça fait que ça, tu es un petit peu awkward au niveau de notre attachement. Puis après, ils ramènent des vieux comme Goldberg qui ne savent pas lutter pour Taker aussi qui ne savait pas lutter récemment. Fait que là, Goldberg pète The Fiend, Goldberg pète Kevin Owens. Puis on est comme, c'est vraiment bizarre, tu sais, genre même le Rumble 2015, parce que hashtag cancel WWE Network, il est trending après, là. C'est fucked up quand tu y penses un instant, là. Imagine à quel point que tu irrites une grosse, grosse, grosse fanbase au point où est-ce que c'est trending, là. C'est pas... Il y a une partie de la crowd qui trippe vraiment sur whatever. C'est vraiment suffisant pour que ça fasse un mouvement de monde qui eut Roman Reigns, au point où est-ce qu'après, la compagnie décide d'enterrer les sons de la UE parce qu'ils décident vraiment que non, je vous le jure, vous allez aimer ça. Fait qu'à travers tout ça, ils ont cultivé énormément de frustration. Puis des gens comme, tu sais, mettons dans le temps, il y a 10 ans, Zack Ryder qui est comme, oh yeah, il fait sa propre affaire sur Internet, c'est le premier vlogueur un peu, si on veut, de la lutte. Puis on est comme, yes, quand il gagnait à IC, on était tellement contents. Puis là, Vince, c'est comme, OK, là, vous l'aimez, mais c'est pas mon boy, fait que je vais vous l'enterrer pour vous autres. Puis des choses comme Cesaro puis Ricochet, que tout le monde capote sur eux autres. Puis que Vince, c'est comme, il a juste attrapé le brass ring, alors qu'il a juste donné une chance d'avoir une promo dans le personnage, c'était pas clair il y a 10 ans. Puis à cause de ça, il va jobber pour la reste d'éternité. C'est tellement bizarre. Tout ça est tellement bizarre. Puis en tant que fan de lutte, on dirait qu'après tant d'années, surtout là, il n'y a plus de crowd. Là, je suis comme, il n'y a plus de vrai crowd. Puis ça paraît. Puis il y a des bons côtés des fois, même souvent, malgré tout, mais c'est pas intéressant pour moi. Je ne veux pas voir ce que Vince pense de qui devrait être. Ça ne m'intéresse pas tant.
100% d'accord.
Ben, en même temps, tu parles de des vrais stars comme dans Attitude Era. je pense que le fait avec tous les rapports, les rapports backstage, toutes les nouvelles qui sortent, je pense que tu peux plus tant faire ça parce que tu es podcast comme nous autres. Je pense que tu peux plus tant faire ça de manière naturelle. Tu n'as plus jamais de gros pop qui n'est pas ligué, de grosses surprises.
À part de ça, moi, ce que je te parle, c'est que le trame narrative est extrêmement bizarre. Les champions perdent sans arrêt dans les shows hebdomadaires. Fait que quand tu les vois perdre, tu es comme, ben là, je vais pas avoir le pay-per-view parce que je sais qu'ils sont défaitables. Ils peuvent être battus par le même contender qui va le battre dimanche à No Mercy ou à whatever, la Backlash. Fait que déjà là, c'est comme moins intéressant. Mais aussi, ils choisissent 2-3 personnes qui sont tout le temps au top et qui gagnent tout le temps. Fait que quand que Braun Strowman, il bat peu importe contre qui il est, ben ça fait juste qu'il est au top et que c'est très, très difficile. Parce que, tu sais, si t'as comme 5-6 gros joueurs, que de temps en temps, il y a des défaites qui apparaissent, c'est une joke, là, le nombre de roll-up qui se font à Raw et à SmackDown comme finish. Là. Ça n'a pas d'allure. Là. Les matchs doivent finir en 1, 2, 3, puis m'envoie des finishers. Quand tu vois des finishers, tu vois le personnage autre, même s'il est méchant, même si Demise est méchant, il peut pareil péter des yells. Tantôt, on n'a pas parlé de lui, mais Kurt Angle, c'est un de mes préférés. Parce que, un, il peut être super clownesque puis super drôle, puis il switch, puis il devient super intimidant, puis legit. Puis je pense que l'un ne va pas contre l'autre. Puis une affaire que le WWE devrait mieux faire, selon moi, c'est de tout le monde peut perdre, puis tout le monde peut gagner. Puis le 50-50 booking, c'est tellement bizarre parce que ça ne concerne pas tout le monde.
C'est aussi, je pense, c'est ça qui tue un peu le produit. Est-ce que tu suis quand même NXT puis All Elite ou...
J'essaie de... ces temps-ci, je vais publier un livre qui va sortir le 12 mai. Fait que vous viendrez voir ça, vous pourrez l'acheter partout où vous voudrez. Puis suivez-moi sur les réseaux sociaux, hashtag, comme ça, Pierre-Luc sur Instagram, parce que j'en parlais partout. Mais là, je suis dans le jus en maudit. La lutte a pris le bord pour moi. J'ai tellement hâte que le public revienne, même si, tu sais, mettons, j'ai pareil suivi des bouts, là. Il y a des promos, mettons, quand Roman Reigns est devenu heel, qui j'avais tellement hâte que ça arrive, ben ça va être bizarre parce que, mettons, sa promo contre son cousin quand il se criait après, puis que, genre, de Rousseau, il était sur le bord de pleurer. Ça, c'est profiter du fait que la crowd n'est pas là. Parce que la crowd aurait pu ouater. La crowd, des fois, elle était vraiment gossante. Fait que ça, c'est vraiment une bonne utilisation de pot crowd. C'est laisser les acteurs acter. Puis je pense qu'ils devraient faire ça peut-être un peu plus souvent. Si ça pourrait attirer mon œil s'ils faisaient ça plus souvent.
Et moi, j'ai un débat pour vous autres, les gars.
Allons-y.
Êtes-vous pour ou contre une pause après WrestleMania? Une pause, là, je ne parle pas de 6 mois, mais mettons un mois.
100% pour.
OK.
100% pour plusieurs raisons. Un, parce que ces athlètes-là sont des athlètes qui, là, c'est dans-ci, c'est pas le cas parce que c'est la pandémie. Mais les autres sont en route sans arrêt, là. Sans arrêt à faire de la route, à lutter tellement souvent. C'est extrêmement épuisant sur le corps. C'est extrêmement épuisant sur tout ça. En plus, ça fait en sorte que les writers, eux, peuvent s'asseoir un instant, planifier des choses. C'est-à-dire comme commencer à écrire jusqu'à SummerSlam, puis peut-être une route vers le Rumble pour du monde, tandis qu'en ce moment, ils n'ont pas le temps de faire ça, puis après, Vince, il efface tout 2 heures avant Raw.
Ouais, ça ressemble à ça.
Fait que, tu sais, s'il y avait le temps pour planifier une histoire, je pense que ça aurait plus rapport. On ne serait pas pogné avec Dominic contre Seth Rollins semaine après semaine, parce que ça ne faut pas faire.
Bonne réponse, ou sinon, toi, Tom.
Ben, moi aussi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une saison morte. Tu parlais du fait qu'ils sont sur la route sans arrêt. Oui, il y a ça. Ben, quoi qu'ils ont enlevé les live events, mais aussi les fans, comment. Surtout après WrestleMania, c'est comme une période où que tu down, le court est assez moyen. Là, après les backlash et les Extreme Rules, tout ça. J'avoue qu'un break de un mois et demi après WrestleMania, puis là, tu commences avec Money in the Bank, je sais pas, ça donnerait peut-être un meilleur produit.
Ouais, je pense que partir Money in the Bank avec ton année, avec ça, ça drive quelque chose. Ça drive, ça commence quelque chose qui va finir à Mania. L'énergie du premier Mania va être, du premier Raw post-Mania va être encore là, va être aussi électrique d'après moi.
Donc, parce que Will est parti, je pense que ça. En tout cas, Will n'est pas là, mais on va continuer. Votre Mania préféré.
Après, Péo, t'as-tu donné ton opinion sur le sujet?
Écoute, je peux donner une opinion rapide. Moi, je suis pour. Mais je pense que ça n'arrivera jamais, là, pour la simple raison que, bon, l'argent derrière ça, c'est sûr que si tu topes un mois sans lutte, ben, tu n'as pas d'argent. Puis je pense que les contrats avec les compagnies de production, exemple Fox pour SmackDown, puis Raw, je crois que c'est USA que ça, perdre un mois de. Parce que ça, quand même, ça apporte une grosse visibilité. Là. Moi, je ne suis pas sûr que ça va se faire. Puis les fans aussi. Nous, on est quand même mature et on est capable de comprendre le côté humain et le côté athlète, mais je pense surtout aux plus jeunes. Là. Un mois sans leur super-héros, exemple Roman Reigns ou John Cena, ça va être dur. Moi, juste pour ça, je pense qu'on ne le fera pas parce que c'est un côté marketing et un côté business. Mais oui, je suis pas. Écoute, comme tu dis, là, présentement, ils l'ont un petit peu plus facile, mais là, tu sais, c'est Raw, SmackDown, plus des live events pendant ce temps-là, plus des tournées d'autographes ou d'apparitions publiques, plus des shows, des podcasts, de la radio. Ils arrêtent pas, eux autres-là. Là.
Ouais, puis tu vois, ça les rendrait meilleurs d'avoir toute une pause.
Ben oui, ben oui, ben oui, assurément. Puis c'est vrai là, que le contenu, à part Money in the Bank, après WrestleMania au mois de mai, c'est long là, jusqu'à SummerSlam. Là. C'est très long.
Donc, votre mania préférée,
Je vais vous laisser y aller, moi.
J'hésite vraiment gros. Je me souviens, le 17, la carte est incroyable, puis tout est bon. Ça, c'est... Puis il est court. Ça a l'air niaiseux, là, mais on est comme, oh my god, un mania de 2 heures, c'est quand même court, mais c'est censé être ça, censé être non-stop l'action qui est le fun. Puis après, tout le monde s'en va à la maison content. Personne chialait dans le temps que hey, j'aurais pris 6 heures de plus de cette histoire-là. Mais récemment, j'ai vraiment aimé Mania 31. J'ai vraiment aimé. Genre, je trouve que c'est un de mes préférés carrément. C'est vraiment mon deuxième, c'est mon premier. Fait que j'ai rentré ces deux-là.
Je vais y aller. Avec le 19, plus vieux, là, surtout que la E, depuis, je pense, 20, dans les derniers 48 heures, plutôt, ils partagent des gros moments, des gros matchs. 19, si là, si je ne me trompe pas, là, comme j'ai moi, Stone Cold contre Rock.
Ouais, le troisième.
C'est ça, chapitre 3. C'est quand même un gros moment. Sinon, côté plus personnel, ben, c'est le 33 hein, pour le retour de Jeff Matt Hardy. Moi, je suis. Pierre-Luc, là, je suis un gros, gros fan des Hardy's Boys. Fait que c'est sûr
ouais,
que
moi, ouais, puis aussi, c'est pas l'année de Nicolas non plus qui était champion par tag team.
Ah, 4, ça, ouais. Toi, Tom?
Hey, mais juste rappeler qu'il y a une streak en ce moment, puis la suite de Nicolas est undefeated en ce moment.
Ah, ouais, hey, c'est vrai, là.
Ouais.
Moi, je voudrais savoir un match minus one contre Nicolas. Ce serait que. Pour ma part, j'hésite entre le 17 et le 30. D'ailleurs, quand l'épisode va être sorti, je vais probablement déjà avoir sorti un article aussi que je fais, un recap un peu de WrestleMania 17, mais 20 ans plus tard, voir si c'est toujours aussi bon. Ça tient encore sa réputation sur le Québec. Hein, une petite blog personnelle que je fais, j'ai quelques articles là-dessus. Vous irez voir quelques podcasts aussi. Vous irez voir le Québec, c'est un blog pour les journalistes sportifs étudiants. Donc, vous irez voir ça. J'ai plein de collègues. On fait du super bon contenu. C'est malade. Donc, pour en revenir à la lutte, le 17, comme tu as dit, il y a un aspect légendaire, un aspect mythique. C'est Stone Cold, The Rock, le turn de Stone Cold, toute cette histoire-là. La carte aussi est excellente. Également, le 30, avec toute l'histoire de Daniel Bryan, qui est, ma foi, une des meilleures affaires qu'il a eu, t'as fait dans les 10 dernières années. Là.
Par accident.
Par accident.
Tu sais, eux, ils font vraiment semblant comme que c'est ah oui, c'est prévu depuis le début, puis tout, mais c'est ça qui est fou de la WWE, c'est la manière dont ils réécrivent leur propre histoire sans arrêt. T'sais, on parle de WrestleMania, puis tu sais, si tu écoutes la WWE, selon eux, hey, Mania 14, le fameux double turn de Bret puis Stone Cold, puis c'est pas si vrai que ça. Tu sais, écoute Coupe de Raw avant, puis savoir que, genre, ils sont en train de virer, là. Genre, c'est pas mal déjà fait, là. Fait que, des fois, la WWE se fait semblant certaines choses. Puis ça, je me souviens, j'ai vraiment aimé WrestleMania 30, mais le fait que j'étais frustré, j'étais réellement frustré de la manière dont Bryan était mal utilisé, que. J'étais juste comme, hey, ça aurait tellement été le fun, ça aurait été bien fait, et non juste, je pense qu'il avait perdu à SummerSlam, Topolet, j'étais venu le pedigree, puis là, on vient d'arriver avec son ouais. Money in the Bank. Je me souviens être là, puis être comme, urk. Puis c'est pas genre du hit de comme, ah, on l'avait prévu, parce que la suite, elle est pas bien, était pas bien manœuvrée comme c'était voulu, puis c'est comme, c'est tellement bizarre, là. Tellement bizarre.
Vraiment, la dernière histoire écrite par la E qui était déjà planifiée, ben, je te dirais, c'est Michaels contre Taker, les deux matchs à WrestleMania, 2009-2010, deux excellents matchs. Mais sinon, après ça, les gros moments, c'était pas des moments qui étaient prévus. Là. Le pipe bomb de CM Punk, Bryan, comme tu dis, sinon, Becky. Turned Shield.
Tu sais, le plus récent, ce serait Becky, mettons, je dirais. Ouais,
Becky même.
Qui était vraiment unanime, mais c'est un hasard, genre, parce que, une fois de plus, une affaire qui est super importante, OK? C'est super important dans la trame narrative, en storytelling, c'est que tes personnages y évoluent. C'est super important parce que tu écoutes une émission de télé que ton personnage à saison 1 et à saison 4, c'est pas le même. Il a appris ses erreurs, il a vécu des choses qui l'ont rendu, il a payé des prix pour comprendre des choses. Et c'est super important. Fait que, une affaire que la WWE, particulièrement dans les dernières années, n'aime pas, c'est que le personnage il change de tune, il change de look, il change d'attitude, il change de catchphrase. T'sais, si tu penses une fois plus à l'attitude d'Era, une affaire qui était le fun, tu peux nommer genre 8 catchphrases de Jericho, puis jusqu'à tout récemment, puis même encore aujourd'hui, pourquoi il est aussi bon que ça, c'est qu'il passe son temps à changer.
C'est pas Jericho, de... par contre, c'est comme un spécial dans lui, il n'a pas comme lui, là.
Ben, The Rock dans le temps, lui aussi, tu sais, il est passé de Rocky Maivia à The Rock, à un autre The Rock, un People Champion. De l'autre bord, tu sais, les meilleurs lutteurs ont évolué, puis les personnages ont évolué, puis ont changé, puis la WWE aime fixer les personnages dans l'ombre, et ça, ce qui est plate, c'est qu'il n'y a rien qui change, puis ça fait aussi en sorte qu'il n'y a pas de conséquences à rien. Tu sais, c'est sûr qu'à la suite de Raw, nombre de fois que Vince a renvoyé Austin, c'est genre, c'est ridicule. Mais les seules fois que Cena perdait, il revenait le lendemain. Rapadou, yeah, tu sais. Nexus, le maître de la WWE, il finit sur le ring avec sa propre tune. Fait que pendant longtemps, les personnages, ils refusaient, puis aussi, ils refusaient d'avoir l'intensité. Une affaire que tu regardes rapidement lorsque tu regardes des vieilles promos, c'est que les personnages, ils veulent se péter la gueule. M'a pété la tronche. Tu vas avoir mal pour de vrai, je vais te faire mal. Puis il n'y a pas cette notion-là dans les dernières années, selon moi. Il y a juste, ah oui, on va compétitionner, puis tu vas voir, je vais être au-dessus de toi. Mais il n'y a pas, tu vas souffrir, puis tu vas regretter, puis ça peut être ta mère. Fait que tant que Becky a sorti cette intensité-là, on avait tellement hâte que le personnage fasse enfin ça, que ça a popé de même, puis c'est frustration. Par pur hasard, dans cette île. Puis. Une affaire qui est bizarre, c'est que la WWE, sa conception de la moralité est vraiment étrange aussi. Puis ça en dit beaucoup sur Vince.
Ouais, ben, juste à penser au turn heel de Dan Bryan, champion super écologiste, plus gros heel qu'il n'y a pas depuis 2 ans.
Ouais. Ben, une affaire qui est bonne de ça, je trouve qu'une bonne affaire qu'il devrait faire à la lutte plus souvent, c'est que les méchants ont raison. Quand les méchants ont raison, là, il y a quoi de vraiment magnifique là-dedans? Tu sais, ça a l'air aussi niaiseux, mais dans le temps, IRS, il y avait du hit en esti en disant au monde, payez vos taxes. C'était level zéro, mais ça marchait en esti parce que quand ton méchant a raison, il y a quoi de deep qui vient chercher dans des propres valeurs? Puis dans la manière qui dit au monde, vous surconsommez, vous polluez la planète, vous n'êtes pas propre, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant, je trouve. Puis quand les méchants ont raison, tu sais, une affaire dans les X-Men qui est vraiment intéressante, selon moi, c'est quand Magneto a raison. Tu sais, j'imagine être un jeune mutant de 16 ans, puis je me fais bouler à l'école, Chris, Magneto, il dit « Hey, come on, man, viens, on est meilleur que les autres. » C'est super intéressant comme méchant. Fait quand les méchants ont raison à la lutte, je trouve ça super intéressant. Puis
Burns, c'est un peu comme Seth Rollins présentement, tu sais. Selon moi, la gimmick Messiah, là, c'est une de ses meilleures gimmicks depuis The Architect.
Ouais, ben c'est ça. Genre, je pense que quand quelqu'un communique ses valeurs, il y a une affaire qui est vraiment niaiseuse puis de base, là, puis que une affaire que l'Attitude Era avait bien puis qu'à ce moment, il y a vraiment un petit peu moins, c'est que lorsque les personnages vont vers le ring, ils ont une raison d'être là. C'est aussi niaiseux que ça. Ils ont une raison d'être là. Pourquoi je vais voir le ring, tu sais? Est-ce que c'est pour montrer que je suis bon? Est-ce que c'est pour preacher pour mon pays? Est-ce que c'est pour de juste me battre? Moi, je vais me battre d'envie, c'est ce que je veux. Fait qu'il n'y a pas vraiment ça. Fait que si tu as juste une section de combat de genre Otis contre Sheamus, puis il n'y a pas d'enjeu, puis il n'y a pas de raison d'être là.
Ouais, exactement.
Ça enlève énormément d'intensité au match, puis d'importance au match. Surtout si semaine après semaine, tu vas le revoir ce match-là sans arrêt, ben il y a encore moins. Il n'y a pas de raison pourquoi je regarderais ça. Fait que tu as tellement raison. Lorsque Messiah est là, puis son message, c'est comme hey, vous allez vous. Tantôt, je parlais tantôt d'évolution. Tu sais, CM Punk, par exemple, CM Punk qui est en solo à un moment donné, après il est le boss de la Swedish Society. Ben ça, en plus, c'est des valeurs, puis je trouve que ces valeurs-là sont vraiment véridiques et intelligentes. Puis une fois plus, je trouve que l'alcool, c'est un poison, essentiellement. Là. Il y a raison à certains égards. Puis après, il devient le leader de Nexus, puis tout. Une fois plus, ce personnage-là, il évolue, puis il vient avec des motifs qui sont simples à communiquer et simples à comprendre, mais qui sont aussi le fun à pouvoir peser dessus. Puis après, c'est super simple de faire des rivalités quand les personnages ont des valeurs.
C'est ça, tu sais pas, comme exemple, tu mettais un peu la rivalité Sheamus McIntyre qu'il y a eu la dernière semaine, mois. Puis qu'après ça, ben, whoop, Sheamus, il se pognait contre, justement, tu dis, mettons, Otis, tu sais. Otis, c'est comme pas rapport là. Tu sais, ça scrappe un peu la rivalité.
Tu veux faire un match pour le fun de faire un match, ça brise un peu le côté lutte, le côté réel un peu de la chose, ça.
C'est un peu ça, là, Rob SmackDown, ces temps-ci, là, tu sais, je veux dire, la plupart des matchs, là, t'as comme un match ou deux qui va être par rapport à une rivalité. Le reste, c'est genre, OK, lui, on le met sur la corde ce soir.
Oui, puis tu sais, ça a l'air niaiseux, mais si ton lutteur stand pour quelque chose, c'est super facile. Tu sais, mettons, là, je n'ai même pas un nom de l'époque parce que ça me vient en tête, là, mais tu sais, Adam Rose, mettons, tout ce qu'il veut faire, c'est le party. C'est intéressant, je veux faire le party. C'est juste. En sketch, quand j'en écrivais plus dans le temps, en sketch, quelqu'un veut quelque chose, puis il ne peut pas l'avoir. C'est aussi simple que ça, c'est ça un sketch. Puis un personnage de lutte, c'est quelqu'un veut quelque chose, puis qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut comme être Miz? Miz, ce qu'il veut, c'est la reconnaissance. Miz, il veut la reconnaissance de son père, de la crowd, de Vince, des autres lutteurs. Miz, il va vers le ring pour avoir la reconnaissance, puis c'est ça qui est tout le temps bon, c'est ça qu'il veut, puis il sait qu'il veut ça. Tandis que, tu sais, de temps en temps, Adam Rose, il veut faire le party. Fait que c'est simple, t'en vas chez Miss quand c'est le party, j'aime pas tellement qu'il est bonne humeur, blablabla. T'as une histoire, même pour un seul match, t'as une histoire qui est possible à faire. Otis veut manger, c'est aussi niaiseux que ça. Si Otis veut manger, ben quelqu'un vient, il l'empêche de manger. C'est aussi simple. Puis là, ça peut créer genre une rivalité de. Le hurt business arrive, puis il prend sa bouffe et met à terre. Il y a un match, mais le match-là a une raison d'être là. Puis s'ils sont heal, ben t'es comme, ah, les maudits, ils ont pas empêché mon préféré de manger, c'est ça qu'il veut faire dans la vie. Puis c'est juste ça qu'il faut que tu fasses. Ton personnage veut quelque chose parce qu'il est là pour une raison, puis quelqu'un qui est méchant, il veut pas le laisser faire.
C'est juste fond, ça. La lutte, c'est pas compliqué, c'est simple de même. D'ailleurs, tu parles de Hurt Business. Avant qu'on continue, on fait une petite parenthèse. Cette semaine, les gars, Hurt Business, c'était la fin. Vous en pensez quoi de ça?
Très mauvaise décision pour ma part. Là.
Trois séparations de faction en dedans de même pas un mois. On disputa des Raw, deux semaines après Retribution, puis lundi d'après, c'est Hurt Business. Sachant en plus que les deux titres par équipe sont jamais défendus, c'est pay-per-view, fait une couple de mois, côté masculin. Ben, tu vois que Vince, ça me vraiment pas tout ce qui est équipe, tout ce qui est faction. Là. Je veux dire, c'est un message très clair. Sachant en plus qu'il y a une annonce aujourd'hui que les titres par équipe de SmackDown seront pas défendus dans un des deux soirs de WrestleMania, ils vont être défendus à SmackDown cette semaine.
Ben, quand tu regardes les dernières années, la division tag team, là, ça se voyait, c'est rendu ridicule.
Ben, une fois plus, ça arrive même de mettre les trois ensemble. Fait que c'est Usos contre New Day, après The Bar contre Usos. Voilà. Après,
exactement. The Bar se sépare, whoop, on retombe New Day, Usos, whoop, là, on les sépare, on met avec Rings, mais quand même, New Day revient dans le tag team. Tu sais, c'est tout le temps ça depuis les dernières années, puis ça va toujours rester là, parce qu'il n'y a pas assez de tag team qui est bon pour durer, pour prendre la place.
Côté de NXT, Undisputed Era, ça faisait un bout que ça revenait, fait que je peux plus le comprendre.
Ouais.
Ça, c'est plus logique. Cependant, tu sais, mettons, voulez-vous mon fantasy booking de Retribution? C'est super simple. Retribution, à la base, c'est du monde fâché contre la WWE, right?
Ouais.
Fait que qui est fâché? Qui a quitté récemment ce moment-là de WWE? Qui devrait être la boss d'une faction qui ne s'est jamais vue avant? Sonya Deville, elle s'est fait mettre dehors parce que l'autre est trop petit pour elle. Elle a perdu un minute son match. Elle revient, puis c'est elle la boss. Puis elle est là, pas pour rien. Elle est juste là parce qu'elle est en crise après tout le monde. Parce que le monde, il réalise pas qu'elle est bonne. Fait que là, elle prend d'autres jobbers qui vivent la même affaire qu'elle. Puis ensemble, ce monde-là, son retribution, ils changent pas de nom. Ils prennent leur vrai nom, en fait. Genre, fait que c'est Daria quelque chose qui après son vrai nom. Puis ils sont comme, non, nous, on est là pour rester. Vous allez nous respecter. On est retribution. Vous allez manger la merde que vous me faites manger quand on est en pro. Fait que, tu sais, elle ramasse des Tucker puis des Chateau de Benjamin, des choses comme ça dans le temps. Puis, tu sais, cette faction-là de low card devient super des. Un, ils perdent pas tout le temps. Deux, ils n'ont pas des noms ridicules. Puis, trois, ils sont pas des masques ridicules non plus. Tout ce qu'ils font, ils veulent avoir une retribution, ils veulent leur revanche. Puis comment ça que T-Bar veut sa revanche? Ça n'a tellement pas d'allure une fois plus. C'est juste des gens qui veulent quelque chose. Puis qui veut pourquoi, genre? C'est tellement facile. C'est pas pas si compliqué que ça, écrire la lutte.
Wade, on en a parlé pendant que tu étais parti, mais maintenant que tu es revenu, on va y aller. Ton WrestleMania préféré?
Je l'ai déjà dit, c'était le 20, on en a parlé avant que je parte.
Ah, t'avais dit que c'est ton premier.
Ben, mon premier, c'est mon préféré aussi, là, je l'ai dit en même temps.
Okay.
C'est, honnêtement, c'est le premier WrestleMania que j'ai vu, puis c'est le premier WrestleMania que j'ai eu en DVD aussi. Tu sais, j'ai le coffret avec les trois CD et tout. C'est mon père qui m'avait donné ça. Puis, je pense mes matchs préférés, c'est clairement Eddie Guerrero puis Chris Benoit qui deviennent champions. Mais il y avait, non, tu sais, il y avait une coupe de. C'était un bon WrestleMania. Là. Tu sais, les rivalités étaient bonnes dans ce temps-là. Fait qu'honnêtement, pour moi, tu sais, plus que ça avançait, plus que bon. Ben, je te dis pas, mettons, WrestleMania 21-23, etc. Mais tu sais, plus ces derniers temps. Tu sais, à partir de, mettons, 26-27 en montant, là, tu sais, ça commence à dégrader un peu.
Même 25, là.
Genre. Ouais, même 25 ouais. Aussi.
On va continuer, parce que là, on avance dans le temps tranquillement, pas vite. Votre match préféré de WrestleMania?
Ouais, ça, c'est une bonne question, par contre, parce qu'il y a beaucoup de choix, là.
Oui.
Moi, je vais y aller, personnel, parce que j'étais là.
Vas-y. Ouais.
C'est Triple H qui rentre en Undertaker dans le Hell in a Cell avec Shawn Michaels comme guest referee.
Je pense que c'est le 27, right? Ou 28?
28,
ouais, c'est ça. Parce qu'il y a eu comme deux WrestleMania. C'est-tu celui que Taker, il repart à civière après ça?
Non, ils partent les trois ensemble, en fait, après le match.
OK, ouais, celui-là, ça, celui-là.
Okay. Puis, tu vois, genre, ce match-là, je pense que mon préféré, c'est mon préféré émotivement parce que j'étais là, mais, tu sais, même à ça, c'est celui de deux ans avant, c'est le dernier match de Shawn Michaels. Je l'ai tellement aimé. Je trouve que ça comptait une fois plus. C'est ça, une affaire. C'est quelqu'un avec quelque chose, l'autre, il veut pas. Puis, OK, je vais payer ce prix-là pour avoir cette affaire-là. C'est aussi simple que c'est une bonne histoire. Puis eux, sont des super bons raconteurs d'histoires. C'est des super bons lutteurs, surtout à cette époque-là. Fait que c'est mon match préféré aussi, celui-là.
D'ailleurs, à WrestleMania 28, est-ce que tu voyais bien? Est-ce que tu étais bien placé?
Ouais, je suis quand même très loin, là, cependant. Mm-hmm. Fait que j'avais l'air de voir genre un timbre le ring, mettons. Là. Mais sinon, quasiment, là, c'est vraiment, vraiment loin. Mais c'était vraiment le fun. L'ambiance était le fun en général. Sauf que des fois, tout le monde s'affaisse. Il faut juste deux matchs ordinaires pour que la crowd, qu'on peut en faire poser. Puis après, nous recrinquer, c'est difficile.
Mais je suis sûr que tu allais dire un match de 18 secondes entre Sheamus et Brian.
Ouais. Ouais, ça m'a beaucoup chialé quand c'est arrivé, ça. Puis tu vois, une fois plus, puis ça a donné qu'ils ont bien récupéré ça deux ans plus tard, mais c'est vraiment un add-on. Là.
Ouais. Toi, Péo?
Écoute, là, j'hésite. Je vais peut-être y aller avec WrestleMania 25.
Ah ouais, même pas le retour des Hardy Boys en attaque.
Non, je l'ai déjà dit. Non, je change. WrestleMania 20. Ah, en fait, non. Si, le 17. Le 17 parce qu'on n'arrête pas d'en parler depuis tantôt pour la match card, mais surtout pour le premier match entre Hardy Boys, Dudley Boys et...
Ah, et TLC, ouais.
Tellement, tellement bon choix. Tellement bon choix. Je suis jaloux, j'aurais dû choisir ça.
C'est pas TLC. True, ici?
Deux, mais ça peut, je
deux, me semble. Deux,
le premier, c'est
un excellent match, moi,
je pense.
Un excellent match. Très bon choix, PO.
Absolument.
Je suis sûr que tu allais prendre. Jeff Hardy là-dessus. Là.
Ouais, je suis sûr que tu allais prendre la bataille d'Hardy en 2009, là, à WrestleMania 25. Mais...
C'est pareil. J'y ai pensé, mais j'ai mieux aimé leur I Quit match à Backlash. En tout cas, ils ont eu un I Quit match entre les deux. C'était pas à WrestleMania, là, c'est un pay-per-view après. Mm-hmm. Ça, c'est mon match préféré dans leur rivalité. Là.
C'est fou que Jeff Hardy, un, marche encore aujourd'hui, mais deux, il est encore super compétent. Là. C'est impressionnant. Tu sais, si tu regardes mettons, le monde de son époque, puis tu sais, quand tu penses à commencer à lutter dans du backyard wrestling, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais tu sais, dans le temps, c'est vraiment la mode de comme ramasser tes chums de sur le rang d'où tu habites vraiment loin. Vous trouvez 3-4 matelas puis vous cassez le cou, là. C'est essentiellement ce qui se passe.
Ouais, on le fait encore, nous autres.
Ah, okay, ça marche, super.
On va de sortir sur un stage,
ça mérite, ça mérite écoute, la trampoline, tu sais, comme là, puis il y a comme la remise chez PO.
Ouais.
Et on se dit, Chris, moi, je suis un high flyer dans la vie de tous les jours.
Oui.
Surtout que j'ai peur des hauteurs. Fait je me dis, je m'en vais sur le top de la remise, puis je saute sur Tom en frog splash.
Fait que, ça aucune technique. C'est genre...
Aucune technique. Ça me prend 5 minutes à me décider à sauter en bas de la remise. Puis finalement, je le fais. Sauf que mon frog splash, je saute. Ma main droite était correcte, mais ma main gauche, elle descend comme ça.
Avec le poing.
Avec le poing. Directement bien visé entre les jambes de Thomas.
Ouais. Mais ça, sais, ça, c'est au pire jouer à la lutte, là, mais tu sais, eux luttaient comme avec des genres de fans, tout ça, avec des fans autour. Puis, tu sais, ils étaient super hardcore. Tu sais, quand il a commencé, je sais pas si tu as vu les premières images, PO, des RD Boys à la WWE, mais tu sais, WWF, mais tu sais, ils sont comme super colorés, ils sont très. Techno Team 2000 dans le temps, c'est comme genre espèce d'énergie-là, espèce d'équipe. Pourquoi je me souviens d'eux autres? Je sais pas pourquoi je me souviens d'eux autres. Mais genre espèce d'équipe un petit peu bâtarde de même. Puis eux étaient super jeunes. Je pense qu'ils étaient même mineurs quand ils sont rentrés là.
Ils ont commencé il y a 17 ans à WWE, effectivement.
Fait que tu sais, ils commençaient déjà à lutter avant. Puis là, on est rendu comme 25 ans plus tard. Puis je me suis dit, il va plus. Jeff, il y a des problèmes de consommation assez graves aussi à travers ça. Il y a des problèmes de vie intense, personnelle. Puis aujourd'hui, il se défend super bien. Là. Je pense que ça fait 3 ans qu'on dit qu'il va arrêter de faire son Swanton Bomb parce qu'il a mal dans le dos, puis il continue de faire pareil.
Il a massacré, lui, son corps. Là. Il a vraiment mis son corps sa ligne là, pour tous les spots qu'il a fait pas possible. Mais d'ailleurs, lui, comme tu disais, lui et Matt ont commencé leur carrière dans leur trampoline avec des cordes auto qu'ils ont attachées. Puis ils ont parti aussi Omega. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Là. C'est une fédération de lutte bien amateur, Omega. D'ailleurs, ils sont encore là-dedans, ils ont encore des ceintures. Je pense qu'ils ont encore des ceintures par équipe là-dessus.
Ouais, ben c'est ça. Je sais aussi, j'avais lu, je pense que c'est Matt ou Jeff. T'sais, on a eu des gros bas dans leur carrière, tous les deux. Là. Puis ouais, à un moment donné, il y a un article de Vice, je pense, qui suivait un des gars à la JWC, là, de ligue de Insane Clown Posse, là. Genre qui font dans Gathering of Juggalos. Là. Bref, c'est une histoire de ligue trash. Dégueu, puis t'as comme un des deux gars dans la mauvaise passe qui se ramasse là, puis t'es comme, c'est juste triste tout ce qui se passe à cet endroit-là. Là.
C'est pas Matt en même temps qu'il était avec Impact.
Ça se pourrait bien. C'est ça, genre, tout ce gang-là, c'est super triste. Tu sais, Final Destination contre Sting, Final Destination, quand il était trop pacté. Là.
Ouais, Victory ça, Road.
Comment? Victory Road.
Ouais, Victory Road 2012, ouais.
Ça, là, c'est. J'arrive pas à croire qu'il y a encore une carrière aujourd'hui. Ça ne passe un instant. Là. Il a été réengagé après ça. C'est fou. Là.
Ouais, puis c'était contre Sting. C'était contre Sting. C'était pas contre des jobbers.
Non, c'est ça. Mais, c'est...
Ouais. Mais pour vrai, son run de retour à Impact Wrestling, ils l'ont construit autour de ça. Puis Eric Bischoff, puis Jeff Jarrett, là, qui étaient comme les heels derrière ça, qui disaient « Ah non, t'es un pookie, on ne veut plus. » Les fans l'ont vraiment donné un soutien à Jeff Hardy. Puis Sting, il y a eu un documentaire, je pense, c'est WWE 24,
ouais.
Sur Network. Puis justement, Sting, il parle de ce match-là avec Jeff. Puis il dit « Je suis un des gros responsables de son retour à Impact Wrestling. » Puis il y avait AJ Styles, Samoa Joe, James Storm, Bobby Roode, deux autres qui s'étaient opposés. Bref, c'est super fascinant de voir que comme... Puis ils l'ont mis en storyline, là. AJ Styles puis Bobby Roode, ils le poussaient à l'investisseur en disant « On ne veut plus ici, t'as scrappé le nom de la compagnie. » T'avais des Sting qui voulaient faire des tag team match avec puis l'aider. C'était... J'ai bien aimé la fête. Mais oui, puis Matt Hardy aussi, il y a une période qui a fait un... Tu sais, qui avait fait un message d'adieu sur Twitter qui se suicidait, puis...
Ouais, Matt, c'était rough, là, tu sais, comme... C'est fucked up, là, genre... Ta blonde te trompe avec un autre collègue devant tout le monde. Tu sais, quand que Lita Edge est arrivée, c'est genre... Ils ont fait un sex celebration, tu sais, genre, c'est pas vrai, mais c'est ça qui se passe lundi soir, puis tout le monde te parle de ça. Après, tu sais, après, ils l'ont réengagé après toute cette affaire-là, puis il a super jobé. Puis ouais. Après, ben, il est devenu vraiment out of shape pendant un bout. Il avait vraiment comme le gros dad bod à côté parce qu'il buvait trop, puis il était pas dans son élément. Mais lui aussi, tu sais, il est rendu à AEW. Récemment, il est tombé sur la tête, puis mon Dieu, c'est surprenant qu'il marche encore aujourd'hui. Mais c'est incroyable que ces gars-là, ils se sont réinventés sans arrêt. Jeff Hardy, un petit peu moins au niveau du personnage, mais ça n'a jamais été le plus grand storyteller de la Terre à ce sujet-là.
Oh, t'as ce que tu dis, là, Pierre-Olivier va être offensé.
Non, mais à ce sujet-là, c'est pas...
T'attaques une des deux choses qui aime le plus au monde. Jeff Hardy, la deuxième, Impact Wrestling. Fais attention.
Non, mais tu sais, le personnage de Jeff, c'est pas celui qui a pu s'évoluer.
Non, effectivement, ça c'est...
Mais à part de ça... Le fait qu'il est capable d'être aussi bon encore aujourd'hui, c'est impressionnant. Tu sais, comme quand tu penses que Taker est plus vieux, mettons, mais tu sais, Brock, il se force pas, là.
C'est bon, non, mais tu sais, on s'entend, il fait encore des bons matchs. Je sais pas quoi, là. Mais tu sais, le match à l'NSL avec Orton, là, c'est un bon match.
C'est un calvaire de match, ça.
Bon, Will, ton match, son lien préféré?
Je vais encore me répéter avec WrestleMania 20. Là, je vais trancher les deux matchs, puis je vais aller avec... Triple H contre Shawn Michaels contre Chris Benoit pour le World Heavyweight Championship. Honnêtement, là, sais, on a comme présenté Chris Benoit un peu en underdog dans ce match-là. Tu sais, t'avais comme les deux gros noms qui se battaient pour le title. Chris Benoit était là. Puis finalement, Chris Benoit qui remporte le titre, etc.
Ouais, puis il part à pâte en plus. Là. Fait qu'il a fait taper le gros. Ouais, fait que ça, c'est vraiment cool. Puis tu sais, c'est l'affaire aussi, une affaire qui. Je trouve que narrativement, il y a beaucoup d'affaires que le WWE aurait pu exploiter et qu'ils l'ont pas fait. Je trouve que dans les dernières années, le Never Give Up de John Cena, faites-le abandonner une fois. Genre, faites-le qu'il y ait quelqu'un qui. C'est ça, faites-le taper ou faites-le proche de taper, quelque chose, ça passe par rapport à ça. Si quelqu'un proclame qu'il abandonne jamais, ben ça, c'est le bon outil narratif pour le forcer à ou essayer de faire des choses avec cette histoire-là. Puis aussi, il y a une symbolique derrière abandonner. Là. Il y a une symbolique aussi derrière ça qui aurait pu être. Et puis lorsque tu parlais justement tap out du bout des doigts, c'est vraiment une super belle image.
Ben oui.
Si je ne me trompe pas, une des raisons pourquoi ils n'ont pas fait ça, c'est que la dernière personne contre qui John Cena a tapé, c'est Chris Benoit.
D'ailleurs, sachant tout ce qui s'est passé avec Benoit après, est-ce que ça vous rend un peu, je sais pas, est-ce que ça vous rend un peu bizarre de regarder les enfants avec Benoit aujourd'hui?
Non. Aucunement pas. Comme tu sais, Thomas, moi, dans la vie, je suis un très grand défenseur de Chris Benoit, puis je suis persuadé qu'il y a un petit quelque chose en arrière de cette histoire-là. Je m'engagerai pas là-dessus, là. Écoute, je sais.
On va faire un épisode complet là-dessus,
mais écoute, moi, je suis persuadé qu'il y a quoi de pas net là-dedans.
Ben, avez-vous écouté sur Crave, il y a les documentaires Dark Side of the Ring?
Ouais.
Sur Chris Benoit est super bon. Oui,
c'est le seul que j'ai écouté. C'est le seul qui m'intéressait.
Mais Chris Benoit, genre, je pense que je ne mettrais pas au Hall of Fame.
Ben, honnêtement, là, tu ne le mets pas au Hall of Fame pour la personne, là, mais tu le mets au Hall of Fame pour la carrière.
Non, ça, tu ne peux pas l'un va avec l'autre. L'un va avec l'autre. Mais
tu regardes ça, c'est un animal temps pareil que j'avais. Si tu prends l'exemple de Jimmy Snuka, là.
Oui.
Tu sais, il est accusé de meurtre, c'est pas.
Uh-huh. Mais Jimmy.
Il n'a pas été facile de soi pour autant.
Non, mais c'est parce que ça n'a pas été un splash médiatique aussi gros, c'est pour ça.
Non, c'est sûr, mais. Je pourrais en débattre longtemps. Je pourrais en débattre très longtemps.
C'est un bon sujet, en fait.
Ben oui.
C'est comme le fait d'avoir Donald Trump dans le Hall of Fame, surtout avec toutes les polémiques qu'il y a, puis le personnage de coloré avec ses scandales de viol, plus toute affaire. Là. Écoute, sa place, est-tu vraiment. Dans le Hall of Fame de la WWE, c'est sûr que c'est un grand chum de Vince, mais politiquement parlant. Moi, je ne suis pas un fan de lutte, mettons, là, je me retire du fan de lutte, puis je vois qu'un salaud, entre guillemets, là, j'enlève rien à ce qu'il a fait de bon pour la politique, là, mais tout ce qu'il y a autour de ce personnage-là, de croche, et dans le Hall of Fame de la WWE, me semble ça ne donne pas le coup d'encourager la WWE parce qu'ils le mettent sur un piédestal, puis ils le mettent avec les grands. Là, puis, en tout cas,
mais c'est que la WWE, dans son cas à lui, elle a commencé à être PG puis moins bonne lorsque Linda McMahon s'est présentée aux élections. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé d'adoucir la lutte parce que les gens s'en servaient comme outil politique contre elle, comme quoi c'était violent, misogyne, raciste et tout ça, ce qui aussi était vrai à travers toute cette affaire-là.
Ben oui.
Mais après, tout récemment, Linda McMahon était genre quasiment, pas ministre, là, mais... Une grande tête.
Une sénatrice.
Oui, sénatrice des PME des États-Unis d'Amérique pendant que Trump était résident. Là. Fait qu'il y a vraiment une relation là. Puis, tu sais, dans le temps, la WWE avait fait des grosses levées qui s'appelaient SmackDown Your Vote pour rappeler aux gens d'aller voter. Puis ça voulait dire allez voter pour Linda, s'il vous plaît. Je pense que c'est le move. Tu sais, Vince est hyper républicain. Puis là-dedans, il y a des hyper républicains là-dedans aussi. Ouais. Fait que, tu sais, Mike Tyson est dans Hall of Fame. C'est par exemple.
Aussi, ouais.
Puis elle manque pas, là. Mais tu sais, rendu là, tu peux en enlever, mais rendu là, je trouve qu'en rajouter quelqu'un comme Chris Benoit, c'est un geste extrêmement inutile de leur part. Ça change rien. Ça change rien que ce soit là ou pas.
Faire la controverse. Côté lutte, j'en ai rien, c'est
un lutteur,
mais tu peux pas passer à côté de ce qu'il a fait.
Fais attention à ce que tu dis, toi, là.
Il est décédé, tu sais. C'est pas comme. Ça change rien. Ça change rien. Dans le sens que, tu sais, mettons, on entend China. Par exemple, elle, c'est une femme qui a souvent dit qu'elle aimerait avoir des communications avec la WWE. Elle a ses problèmes de consommation, elle aussi, puis de consommation de drogue vraiment gros. Mais l'affaire qu'elle a tout le temps dit, c'est j'aimerais avoir la reconnaissance. Tu sais, c'est une femme incroyable qui a fait beaucoup de choses, qui a subi beaucoup d'affaires aussi. Mais c'est aussi une première femme intercontinentale. C'est énorme à travers ça. Puis, tu veux pas l'air, je suis comme, non, elle a fait de la porn, fait qu'elle peut pas être là. Sauf que, elle, c'est triste qu'elle n'a pas eu ce moment-là. Je trouve ça vraiment triste pour elle parce que je trouve que cette femme-là, elle a amené énormément à la lutte. Chris Benoit aussi, mais Chris Benoit, il est mort. T'sais, à cette heure que China est morte, ça change quoi qu'elle soit là? C'est un peu symbolique s'ils veulent le faire, mais ça ne change rien. C'est-à-dire que la personne est morte, ça ne change vraiment plus rien.
Saviez-vous un fait intéressant sur China? Saviez-vous que son dernier match s'est fait à la TNA?
Oui, c'est vrai. C'est contre qui déjà?
En équipe avec Kurt Angle contre Karen Jarreff puis Jeff Jarrett. Là, Karen Jarreff qui était l'ex-femme de un peu comme Lita puis Matt Hardy puis Edge.
Oui.
De Angle à Jeff Jarrett. C'était son dernier match à la belle Lita. À la belle China, excuse.
Toujours là pour plugger Impact Wrestling un peu partout dans le podcast.
Ben non, mais c'est des classiques.
En tant que dernière femme d'Impact Wrestling, c'est...
Ben, tu sais, si au moins, tu sais, pour le nombre de merdes qu'ils ont fait, de ramener des vues que ça a fallu, ben, le bleu-là a fait ça après aussi, numéro un. Mais deux, et au moins, il a donné une chance à cette femme-là de voir un dernier moment. Puis, malgré tous ces problèmes qu'elle vivait, qui étaient très, très graves, ben, au moins, elle est sûrement là. C'est déjà ça.
Moi, de mon côté, je vais y aller avec spécialement avec deux matchs. Je vais aller avec Undertaker contre Michaels. Deux excellents matchs. Je pense que c'est les seuls matchs dans les 20 dernières années que Meltzer a donné 5 étoiles aussi. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime le système de ranking de Meltzer, mais tu peux pas enlever que ces deux matchs-là étaient excellents. Ma foi, côté lutte, c'est incroyable. Pour vrai, c'est les deux, je dirais c'est les deux meilleurs matchs depuis les derniers 20 ans.
Ouais, ben une fois plus, je trouve que ces matchs-là, ils sont drivés par des enjeux importants aussi qui sont vraiment... Tu mettons, un des matchs préférés aussi, ça va être Money in the Bank 2012, Cena contre CM Punk. Parce que
c'est vraiment incroyable.
2011, excusez-moi. C'est tellement énorme comme enjeu, c'est tellement original puis surprenant. Tu sais, Michael Flair, même chose. Parce que c'est tellement bien construit que c'est le fun. Puis, tu sais, le « I'm sorry, I love you » avant le Super Kick, c'est tellement fucking bon, là.
My God, première fois que j'ai écouté ça, je pense que je commençais à écouter la lutte puis je croyais, là.
Ouais, c'est vraiment bon.
Sérieux, ça match-là aussi. Bon, dernière question, parce que là, le temps file, vraiment. Votre meilleur moment de WrestleMania, ça peut être un turn, ça peut être un match, ça peut être une surprise, un retour, whatever.
Je me lance le retour des Hardy's Boys. Je veux dire, je suis fatigué avec ça, mais va voir le clip de 2 minutes 34 secondes. Je l'ai écouté en plus ce matin. La réaction, le pop de la foule, écoute, c'est un retour après tant d'années, les deux. Je veux dire, puis c'est un Christy bon match. Là,
le pop qu'ils ont eu, là, était incroyable.
Oh, oui, oh, oui.
OK, moi, je vais y aller avec un autre retour tant attendu, du moins pour ma part. Le retour de James Ellsworth déguisé en Asuka. Ah, ça, j'étais content.
Avec un petit clin d'œil.
Ouais, c'est pas WrestleMania, le COVID.
C'est pas grave, ça. Ça aurait été un moment de WrestleMania, là, ça aurait été écœurant, ça, là. James Ellsworth, c'était un main inventeur, je vous le dis.
Tu peux avoir une belle vidéo de lui personnalisée au coût de 50$. J'ai été voir en plus tantôt un beau petit caméo de James Ward pour 50$. Saviez-vous que Sting en fait pour 500$ des caméos? Je ferme la parenthèse.
Ouais, ben juste son maquillage, ça vaut au moins 100$, là, lui qui s'arrange.
Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a le show, il faut qu'il se maquille à chaque fois. Là. Non, mais plus sérieusement, moment WrestleMania, t'as dit? N'importe quoi, un match.
Un retour, whatever.
Rivalité. Ben, moi, je vais y aller avec la rivalité entre CM Punk et Undertaker.
Ah oui, c'est
WrestleMania 29.
Sachant que CM Punk, en plus, a refusé de faire perdre la streak d'Undertaker parce qu'il était censé faire perdre la streak de Taker.
Juste les mind games qu'il y avait, puis, tu sais, voler l'urne, etc. C'était écœurant.
Ben, c'est un bon build-up, je trouve.
Bon choix.
Je vais y aller, moi, avec la fois que Kid Rock chantait puis que toutes les femmes passent en arrière de lui sans qu'il y ait leur nom en dessous puis après ça s'éliminait vraiment rapidement puis que Santina a gagné. Je trouve que c'est vraiment... Non, pour de vrai, j'ai envie de dire l'image de Stone Cold ensanglanté dans le Sharpshooter de Bret Hart parce que je trouve que cette image-là, on la voit souvent, mais je trouve que derrière cette illustration-là, oui, il y a le masque pourpre au visage, puis c'est vraiment intense. Mais en même temps, il y a une intensité, il faut plus derrière ça qui peut montrer que des fois la lutte c'est violent, mais quand la violence est pour une bonne raison, c'est vraiment, vraiment bon. Puis je trouve aussi que c'est vraiment, tu montres ça à n'importe qui cette image-là, puis ça capte. C'est comme, il y a des questions qui viennent avec, là. Il y a des questions, qu'est-ce qui s'est passé, il l'a-tu mérité, qu'est-ce qui arrive avec le match. Je trouve que c'est vraiment, ça peut être une carte que tu montres à quelqu'un pour lui dire, viens écouter la lutte, il s'est passé ça, puis elle va dire, oh tabarouette, c'est vraiment violent, c'est-tu juste ça? Non, pas juste ça. C'est ça, c'est le summum d'une rivalité.
Moi, je vais aller de trois moments. Le premier, ce serait le turn de Austin à WrestleMania 17, quand il serre la main de McMahon, avec le corps de Jim Ross, qui est excellent. Pour vrai, selon moi, je pense que c'est le meilleur commentaire que Jim Ross a eu sur la lutte. Et ce corps-là est vraiment phénoménal. Quand il dit, you son of a bitch, you just shook hands with the devil himself. Ah, c'est, ça me donne des frissons, là, tellement que c'est bien fait. Là. Un des meilleurs turns de la lutte. Mon deuxième, ce serait le I'm sorry, I love you. On en a parlé, mais juste l'émotion qui sort de ce match-là, de ce moment-là, c'est incroyable. Tu vois à quel point que pas l'auteur Shawn Michaels, mais la personne, à quel point que ça le touche. C'est vraiment un moment au-delà de la lutte. Un autre, c'est, je sais que P.O. et Will vont pas être très d'accord avec ça, mais moi, c'est la victoire de Kofi à WrestleMania 35 pour la symbolique.
Absolument, je suis d'accord avec toi.
Premier champion noir et tout.
Absolument. Non. Absolument, je trouve que ça veut dire beaucoup de choses.
Ben, peut-être, là, mais tu sais, je veux dire, c'est plus le fait que, genre, ah, écoute, les fans le demandaient vraiment, puis là, whoop, de nulle part, Vince écoute les fans. Tu sais, ça a comme pas rapport, là.
Ben, une fois de plus, c'est une histoire qui a été construite par hasard, là, parce que Mustafa Ali était censé être dans l'Elimination Chamber, je me trompe pas, puis là, finalement, Kofi, une fois de plus, volé le show. Tu sais, Kofi, il est underestimé, selon moi, puis il était temps qu'il y ait son moment, puis il l'a eu. Moi, je suis vraiment content.
Bon, il y a PO qui était tellement pas content qu'il a quitté le Zoom, mais c'est ça qui va conclure notre épisode sur WrestleMania. Pierre-Luc, merci beaucoup d'être venu, c'est vraiment apprécié.
Fait plaisir. Vous pouvez tous me suivre sur Instagram, commercial Pierre-Luc, et sur ma page Facebook, Pierre-Luc Racine. Venez aux deux places, j'ai besoin de votre appui pour que les gens puissent voir mes écrits et mes jokes, parce que j'ai besoin de tous, chacun et l'entre vous. Je fais une cheap pop en ce moment-là. Tout le monde ici, au Québec, venez liker mon Instagram et ma page Facebook.
Vous pouvez aller vous abonner à Trois Bières.
Partout, Trois Bières. Fait que tu vas sur, ou tu écoutes en ce moment ce podcast-ci, tu marques Trois Bières, puis tu peux aussi venir mettre un 2$ sur notre Patreon, chercher pour le show la lutte, puis tu vas voir vraiment une belle heure, le fun, avec un public, peux-tu croire, un public non distancé.
Ouais, tu verrais ça aujourd'hui, t'as l'impression que ça fait 20 ans.
Exact.
Pour nous, ça en ligne pour être une très grosse semaine. Cette semaine, on a nos prédictions de WrestleMania, nos retours sur WrestleMania, donc très grosse semaine de lutte, semaine de WrestleMania, qu'est-ce que tu veux? Ça me fait de la job. Pour vous à la maison, on espère que vous avez aimé l'émission. Au nom de toute l'équipe du Compte de Trois, c'était Thomas Lafond et ce fut un plaisir. On vous souhaite une très bonne semaine de WrestleMania, tout le monde.